Béni soit le Seigneur qui, par son esprit, est au milieu de nous. Il ne fait jamais défaut, le Seigneur. Jamais. Toujours présent. Que Dieu soit béni. C'est celui qui est au milieu de nous, qui nous unit par son esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans un livre prophétique que je trouve extraordinaire. C'est le livre du prophète Osée. Et nous allons lire, pour le moment, deux passages. On en lira d'autres au cours de notre partage de ce matin. Le livre du prophète Osée, chapitre 2, tout d'abord. Verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Nous allons maintenant au chapitre 4, verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas le jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Le savons, nous le répétons souvent, toute écriture est inspirée de Dieu. Les écrits que va nous laisser Osée sont inspirés de Dieu, inspirés du Saint-Esprit, et ils nous sont parvenus jusqu'à nous, aujourd'hui. Et même s'ils figurent dans l'Ancien Testament, ils sont inspirés de Dieu, et ils ont quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Certaines prophéties d'Osée, comme des autres prophètes, se sont réalisées en leur temps, d'autres sont à venir. Certaines prophéties, même du livre du prophète Osée, sont encore à venir et trouveront leur plein accomplissement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Osée, pour bien comprendre son message, et il nous faut comprendre l'amour que Dieu a pour ce peuple. Et pour bien comprendre cet amour et le message des 14 chapitres de ce livre prophétique, il nous faut bien analyser les trois premiers chapitres qui sont la clé pour bien comprendre ce message du prophète Osée. Dans ces trois premiers chapitres, il va être question de Osée, de sa femme. Et on va comprendre pourquoi il y a ce reproche qui est fait et ce constat qui est fait de la part du Seigneur même, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et en lisant ces trois premiers chapitres, on comprend tout le message de ce livre prophétique. En effet, il manque une connaissance cruciale, importante, indispensable au peuple. Et c'est la raison pour laquelle le peuple connaît une destruction. Il lui manque la connaissance tout simplement de Dieu. Ils ne connaissent point Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils peuvent se vanter d'être les héritiers de toute une lignée d'hommes, de Dieu, tout un peuple qui fait référence à Dieu, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et c'est la source de tous leurs maux. Quand on est coupé de celui qui est la vie, quand on est coupé de celui qui est tout-puissant, quand on est coupé de celui qui est amour, on est coupé du reste du monde. Et à cause de cela, il y a dans le peuple que de désastres, de la violence. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est saint. Ils ne le connaissent pas. Il y a une rupture qui est faite avec Dieu et cette rupture amène fatalement une rupture avec son prochain. Cherchons à connaître le Seigneur. Alléluia. Cherchons à le connaître. C'est ce que nous voulons faire plus que tout. Dieu est saint. Et ils ne connaissent pas ce Dieu qui est saint. Ils ne le connaissent pas. Et à cause de cette méconnaissance, parce qu'ils sont dans l'ignorance de ce Dieu qui est saint, il n'y a dans le pays que parjure, que mensonge, que vol, que viol et violence. Ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Cette ignorance du Dieu qui est saint les amène à avoir une conduite sans frein. Mais il y a pire. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est juste. Et pourtant, ils vont avoir un procès avec Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est juste et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Car Dieu regarde non pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ils sont dans l'injustice. À tous les niveaux de la société, il y a de l'injustice. Ils ne connaissent pas non plus le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'ils vont chercher Baal pour pourvoir à leurs besoins. Ils n'ont plus la connaissance de ce Dieu qui est Tout-Puissant et qui est grand pour pourvoir à leurs besoins. El Shaddai, ils ne le connaissent pas, celui qui nourrit son peuple. Mais s'ils ne connaissent pas le Dieu qui est saint, s'ils ne connaissent pas le Dieu qui est juste et le Dieu qui est tout puissant, la connaissance qui leur manque par-dessus tout, et nous la trouvons dans ce livre du prophète Osée, c'est qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui est amour. C'est ce qui leur manque le plus. Ils sont dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Et c'est une grande vérité que aujourd'hui encore nous voulons proclamer. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Alors, pour leur révéler son amour, pour leur révéler ce qu'il est, Dieu est amour. Dieu va prendre l'exemple du prophète Osée. Il va prendre l'exemple de la femme d'Osée, du mariage qu'il va y avoir entre Osée et sa femme. On n'a pas lu les trois premiers chapitres, ça serait fort intéressant. Dieu va dire tout d'abord à Osée d'aller prendre une femme prostituée, on va y revenir. C'est un ordre de Dieu d'aller prendre une femme prostituée et de se marier avec elle. Et il va le prendre comme exemple. Comprenons bien dans quelle époque vit Osée. Comprenons bien cette époque. Osée vit dans le royaume du Nord. Le schisme entre le royaume du Nord et du Sud a eu lieu depuis environ 200 ans, grosso modo. Jéroboam a provoqué ce schisme qui n'est pas simplement un schisme politique, mais qui sera aussi un schisme religieux, puisque Jéroboam va faire deux veaux d'or qu'il va placer à deux endroits différents dans le royaume du Nord, et il va dire « Israël, voici ton Dieu ». Il y a donc un schisme religieux important, et à partir de ce moment-là, eh bien, le royaume du Nord va plonger de plus en plus dans l'idolâtrie qui est considérée comme une prostitution spirituelle. Les pratiques qui vont avec tendent à baaliser Dieu, j'allais dire, c'est-à-dire à prendre des aspects des cultes païens et idolâtres et les appliquer à Dieu, ce qui est une perversion terrible. Le problème est sérieux. Le problème est profond. Le problème est dans la nature de la relation de l'homme avec Dieu. Et Osée, au travers de ce qu'il va vivre personnellement, va prendre l'image d'un homme qui est marié à une femme infidèle. Ce sera le premier prophète contemporain d'Ésaïe. Il est venu légèrement un petit peu avant, mais il a été aussi contemporain d'Ésaïe. Mais Ésaïe, lui, était plus prophète dans le royaume du Sud. Osée sera le premier prophète à prendre cette image de mariage entre Dieu et son peuple. Il va inspirer d'autres prophètes comme Jérémie et Ézéchiel. Ce qui se passe est terrible. À ce moment-là, il y a la prostitution sacrée qui est là, avec Baal, avec toutes les croyances et les superstitions qui vont avec, où l'on couchait avec ces femmes prostituées pour avoir la fertilité, pour avoir la fécondité, pour avoir l'abondance des terres et tout ce qui va avec. Ainsi, la prostitution n'était pas simplement spirituelle, elle était aussi physique. Nous sommes vraiment dans une époque immorale. Il est question à plusieurs fois dans ce livre, eh bien, de la prostitution, même de l'esprit de la prostitution qui était répandue dans ce pays à cause de ces pratiques idolâtres vouées à Baal. Alors Osée, à un moment donné, avait peut-être d'autres ambitions, d'autres projets, mais Dieu lui dit d'aller chercher une femme prostituée et de l'épouser. On peut s'imaginer à la place d'Osée de recevoir un tel ordre de la part du Seigneur. Et il se trouve que Osée va le faire, il va aimer profondément cette femme, il va l'aimer sincèrement et authentiquement, il va la sortir de cette prostitution, elle va en être libérée et elle va devenir sa femme. Il y a là une image que Dieu veut laisser à son peuple, lui rappelant ses origines. De la même manière que Osée a épousé une femme prostituée, Dieu a aimé ce peuple d'Israël. De la même manière, frères et sœurs, qu'il nous aime alors que nous ne sommes pas parfaits. Rappelant ainsi, et là, il y a une relation à voir avec le prophète Ézéchiel, rappelant ainsi l'origine de ce peuple. Abraham, d'où vient-il ? Ne venait-il pas d'un peuple idolâtre qui, eux aussi, eh bien, étaient dans la prostitution spirituelle ? Ils étaient tournés vers Dieu. C'est l'origine de ce peuple. Dieu n'a pas aimé ce peuple parce qu'il était meilleur que les autres peuples. Non. Et s'il nous a aimés, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs. Nous avons chanté, c'était le deuxième chant, il me semble, « Il m'a retiré de la boue du péché ». Mais pendant que j'étais encore dans la boue du péché, Dieu m'aimait. Dieu m'aime. Comme Osée a aimé cette femme. Tout comme Dieu a aimé ce peuple, lui rappelant ses origines. D'où est-ce que tu viens ? Souvenons-nous d'où nous sommes tombés. Souvenons-nous d'où nous sommes. Souvenons-nous d'où le Seigneur nous a tirés. Il nous a aimés. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Nous qui étions vautrés dans cette puissance du péché. Mais le Seigneur nous a aimés sans condition. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Il n'a pas attendu que nous soyons sans péché pour nous aimer. Mais il nous a vus et il nous a aimés. Malheureusement, pour Osée, le prophète, c'est que cette femme, après un certain temps, va retourner à ses anciens travers. Cette femme va retourner à ses anciens amants pour avoir leur faveur. Et il y a quelque chose qui va se passer. C'est que au chapitre 3, Dieu lui dit à Osée, le prophète, aime cette femme adultère. Oui, pas facile ça. Aime-la. Et là, on touche au cœur du message du prophète Osée. Les 14 chapitres ont vraiment leur base ici. La clé pour comprendre, elle est là, dans ces trois premiers chapitres. Cette femme qui vient des bas-fonds, cette femme qui est une prostituée sacrée, cette femme qui est dans la prostitution, elle épouse Osée, elle sort de la prostitution, elle a des enfants, il y a une relation non seulement époux-épouse qui est aussi nous parle aujourd'hui, mais une relation père-enfant parce que il y a aussi des enfants qui vont naître de cette union. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on ne va pas le faire ce matin. On va rester focalisé sur ce mariage. Et au bout d'un certain temps, elle lui est infidèle. On peut comprendre ce qu'un homme vit lorsqu'il est ainsi trahi, trompé. Alors que Osée l'aime authentiquement, sincèrement, comme je le disais, mais elle s'est détournée de lui. Elle l'a trompé. Elle ne connaissait pas vraiment l'amour que Osée avait pour lui, pour elle. Elle ne connaissait pas vraiment cet amour. Sinon, elle ne s'en serait pas détournée. Aime cette femme adultère. J'aimerais souligner quelque chose ce matin, parce que Dieu est amour. Combien de fois ce peuple a chuté ? Vous pourrez les énumérer, il y en a beaucoup. Mais Dieu continue à aimer malgré tout. Et à chaque fois que c'est la chute, c'est comme un adultère. Ils se détournent de celui qui les aime, comme cette femme s'est détournée de son mari et l'a trompé, l'a trahi. Dieu continue d'aimer malgré les trahisons. Dieu continue d'aimer malgré les tromperies. Dieu continue d'aimer malgré l'infidélité. Il demeure fidèle quand bien même nous serions infidèles. Sommes-nous toujours fidèles à Dieu ? Reconnaissons que parfois notre cœur se laisse gagner par certaines choses. Reconnaissons-le, soyons vrais et honnêtes envers nous-mêmes. Oui, notre cœur parfois peut être gagné par certaines choses, mais quand bien même nous serions infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime d'un amour éternel, il nous aime d'une manière inconditionnelle. Bien sûr que ça ne lui fait pas plaisir, on va y revenir, de nous voir nous détourner, bien sûr, ça ne lui fait pas plaisir de nous voir, eh bien, avoir un comportement qui n'est pas à sa gloire. Mais il nous aime. Aime-la. Alors, bien sûr, il va y avoir certaines choses que va lui dire Osée. Il va la reprendre pour femme. Et il va lui dire, ne retourne pas vers tes amants. Et moi, il n'y a plus de relation avec eux. Non seulement relation, mais aussi relation physique. Et oser va lui dire « Je serai de même pour toi », c'est-à-dire que lui-même s'impose à ne pas avoir pendant un temps de relation avec elle. Alors, pendant ce temps d'infidélité, il y a ce chapitre 2, ou du moins ces deux vers trois versets que nous avons lus, où il est dit « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Là, le Seigneur va regagner le cœur, reconquérir le cœur de ce peuple. Je veux la conduire au désert, et je parlerai à son peuple. Dans le désert, il n'y a rien. Rien qui peut perturber, plus rien qui peut déranger. Il n'y a plus que Dieu et elle. Il n'y a plus que Dieu et ce peuple. Le désert, il n'y a rien. Symbole aussi de l'épreuve, des difficultés. Il n'y a plus rien. Plus rien. Elle ne peut se tourner que vers Dieu. Il n'y a plus ces Baals, il n'y a plus tous ces dieux qui sont là. Il n'y a plus que Dieu et elle. Et il y a ces moments dans nos vies aussi où il n'y a plus que Dieu et nous. C'est le désert. Quand bien même on serait entouré de certaines personnes, il y a des situations où on est seul devant son Dieu, tellement peut-être il y a la difficulté dans la maladie, dans l'épreuve, ou peut-être la mort est annoncée. Il n'y a plus que Dieu et nous. Perte de travail, perte de tout. Et là, on entend Dieu qui parle à notre cœur. Parce que ce que Dieu veut, c'est parler à notre cœur, pas simplement à nos oreilles, mais à notre cœur. Il veut parler à notre cœur parce qu'il veut nous gagner, il veut que nous puissions nous retourner vers lui. Et il lui dit, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme porte d'espérance, et elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et c'est vrai que quand ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, la sœur de Moïse a commencé à prendre ses tambourins et à chanter. Et ils ont tous chanté à ce moment-là. Alors la vallée d'Accor, pourquoi la vallée d'Accor? C'est dans la vallée d'Accor que Akan a été condamné. Akan, c'est qui? C'est un soldat. Akan, c'est un militaire. Il fait partie de l'armée d'Israël. Et il y avait une interdiction qui était faite. Lors de la prise de Jéricho, il ne devait rien prendre. Mais lui, il a convoité certaines choses. Il les a mis sous terre dans sa tente. Il les a cachées. Mais Dieu l'a vu. Et c'est dans la vallée d'Accor qu'il a été lapidé, qu'il a été condamné. Quel rapport avec notre texte? Pourquoi Dieu fait référence à cette vallée d'Accor où il y a eu ce drame, où il y a eu cette condamnation, où il y a eu cette lapidation, et il va jusqu'à dire, je lui donnerai cette vallée comme une porte d'espérance. Et dans son amour, lorsque Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Lorsque nous passons par cette vallée-là, ce n'est pas pour nous détruire à tout jamais que Dieu nous fait passer, mais c'est une porte d'espérance, parce qu'il sait très bien que le châtiment, nous en avons besoin, parce que ça nous incite à nous retourner vers le Seigneur, et c'est une porte d'espérance, parce qu'alors nous retournons vers lui. Puis rappelons-nous la condamnation qu'il y a eu à la croix. Ce n'est pas la fin de tout, mais grâce à la condamnation qui a été infligée à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été, nous, absous de nos péchés. C'est une porte d'espérance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Au verset du visite, il y a quelque chose d'intéressant. Où il est dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alors, je vais faire une précision. C'est que, littéralement, en hébreu, il est écrit, tu ne m'appelleras plus mon Baal. Mon Baal. Le dieu Baal. Alors, c'est vrai que dans plusieurs traductions françaises, il est écrit mon maître. On peut traduire par maître. Le mot Baal en hébreu peut être traduit par maître. Mais dans le contexte d'Osée, c'est quand même un petit peu amoindrir la signification de ce qui est dit et ça dénature un petit peu. Tu ne m'appelleras plus mon mari et tu m'appelleras mon Baal. Mon Baal. Puis comme je le disais, depuis le schisme qu'il y avait eu, ils avaient fait ce veau qui était là, ces deux veaux, et voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Baal, ce Dieu considéré comme le Dieu de la fertilité, de la fécondité, et c'est pour ça qu'il y avait cette prostitution sacrée qui était faite à Baal. Tu ne m'appelleras plus mon mari, mais tu ne m'appelleras plus mon Baal, mais tu m'appelleras mon mari. En fin de compte, cette femme qui a épousé Osée, la sortie de la prostitution, elle est retournée dans ses anciens travers, mais en fin de compte, elle n'avait pas compris, elle n'avait pas connu, elle n'avait pas su, elle n'avait pas saisi la valeur du mariage et l'amour authentique que Osée avait pour elle. Tel point qu'elle appelait son Baal. C'est-à-dire qu'il faut avoir lui donner des faveurs pour qu'il lui donne quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est son mari. Il y a une alliance qui est faite, une alliance d'amour, et il l'a aimée avant même qu'elle puisse l'aimer. Ça, c'est une alliance qui est faite. Tu m'appelleras mon mari. Elle va reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, puisqu'elle ne le reconnaissait pas. On aurait pu lire verset 10, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. En tenant compte, à chaque fois qu'elle avait quelque chose, elle ne disait pas que c'était Dieu qui lui disait, mais que c'était Baal. Terrible ça. D'attribuer à un autre Dieu ce que Dieu nous donne. Lorsque nous étions en Tunisie, j'ai dû faire des démarches administratives là-bas. Alors, dans ces démarches administratives, j'avais tout un tas de papiers à donner. Et j'avais l'extrait d'acte de mariage pour prouver que nous étions bien mariés, mais ça ne suffisait pas. Là-bas, en Tunisie, ça suffit. Il fallait aussi que je fasse un papier, une attestation sur l'honneur, comme quoi j'héberge mon épouse, que je la nourris et que j'en prends soin. Ça m'a fait rire au départ. Hein. Ceux qui connaissent la Tunisie le savent. Donc, alors ça m'a fait rire, mais je me dis quelque part, peut-être qu'ils ont un petit peu raison. Parce que combien d'hommes et de femmes sont légalement mariés et que les maris ne prennent pas du tout soin de leur épouse. Il y a des maris qui sont mariés, mais ils ne pourvoient pas aux besoins de leur épouse, ils n'en ont rien à faire. Quelque part. Et l'inverse est aussi vrai, d'ailleurs. Hein. L'inverse est aussi vrai. Est-ce comme cela qu'elle considérait Osée à s'appeler Gomère? Est-ce que Gomère considérait Osée comme cela? Est-ce que le peuple d'Israël considérait que Dieu était comme cela? Alors que depuis l'origine, Dieu n'a pas cessé de manifester son amour, alors que Osée, qui est comme un signe, un exemple, n'a pas cessé de l'aimer, n'a pas cessé de l'aimer sincèrement, authentiquement. et a été pour elle une source de bénédiction. Oui, Dieu nous aime. Reconnaissez-le, reconnais-le dans toutes tes voies, nous dit la parole de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Nous voulons être reconnaissants en toutes choses, bien souvent. Nous sommes dans l'ingratitude et nous ne reconnaissons pas tout ce que Dieu fait pour nous. Cette connaissance-là lui manque de ce Dieu d'amour. Mon peuple est détruit, mon peuple périt, faute de connaissance. Puissions-nous connaître cet amour que Dieu a pour nous? Il a fait une alliance avec nous en son Fils Jésus-Christ par son sang. Il l'a scellé par son sang. Que Dieu soit béni. Et c'est une alliance d'amour que Dieu a fait avec nous. Est-ce que nous croyons que le Seigneur va nous laisser tomber? Pourquoi nous agiter dans tous les sens? Pourquoi chercher des solutions ailleurs qu'en Dieu? Pourquoi placer notre confiance en l'argent plutôt que de la passer en Dieu? C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Ce n'est pas l'argent qui nous donne toutes choses. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, on va lire un texte. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et je vous laisse méditer jusqu'à la fin du chapitre 4. On ne va pas le faire ce matin, vous pourrez en rentrant chez vous réfléchir par rapport au message qui est dit. Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Cette connaissance-là manquait et cette connaissance manque. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. S'il n'y avait que violence, s'il n'y avait que des vols, s'il y avait meurtre sur meurtre, s'il y avait toutes ces mauvaises choses, c'est parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu d'amour. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que s'ils avaient connu ce Dieu d'amour, ils auraient aimé leurs frères, ils auraient aimé leur prochain. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. C'est un menteur, nous dit la parole de Dieu. Car comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et pas aimer son frère qu'il voit? Mon peuple détruit faute de connaissance. Et nous voulons vraiment que cette connaissance du Dieu d'amour soit prédominant au milieu de nous. Prédominant au milieu de l'Église. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est bien parce que Dieu est amour et qu'il aime l'Église. Mon peuple périt faute de connaissance. Et pourquoi il manquait cette connaissance? Tout d'abord, et Osée va le dire, il va s'en prendre aux sacrificateurs, à tous ceux qui étaient en charge de faire connaître la loi, à tous ceux qui étaient en charge d'enseigner le peuple. Et il n'enseignait plus le peuple ou il l'enseignait mal. Les rois, il va aussi s'en prendre au roi d'Israël, qui égarait le peuple. Qui égarait le peuple. Mais il serait trop facile de déresponsabiliser le peuple. Car si effectivement les sacrificateurs devaient enseigner le peuple aussi devait chercher l'Éternel. Ils devaient chercher le Seigneur. Ils avaient leur propre responsabilité. Il y a un lien à faire avec Romains chapitre 1er à partir du verset 18 où il est dit que la colère de Dieu se révèle contre toute injustice, contre ceux qui retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est visible comme à l'œil nu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ils sont inexcusables, que ce soit les prophètes, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit les rois, que ce soit le peuple, ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas enseigné le peuple. Alors ils vont entendre ça. Ils vont entendre ça, le peuple va entendre ça, les sacrificateurs, il va même parler de certains prophètes, ils vont entendre parler. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire, ce qu'ils se sont dit déjà? On va lire une partie du chapitre 6. Ils entendent le message de Osée et leur réaction, nous la trouvons au chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété comme la nuée du matin, comme la rosée, et qui bientôt se dissipe, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. On s'arrêtait là. Alors, quand ils entendent le message d'Osée et qu'ils constatent ce qui leur arrive, ils ont un élan de cœur. Venez, retournons à l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel, connaissons, cherchons à les connaître l'Éternel. Voilà un passage qu'on utilise parfois dans certaines prédications pour inviter les personnes à chercher l'Éternel, à connaître l'Éternel. Et voilà, c'est une bonne motivation, on pourrait dire. Un élan de cœur honorable, sauf que c'est superficiel, c'est éphémère. Et c'est ce que va leur dire le prophète Osée. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Là, il y a la rosée le matin, le soleil paraît, et la rosée, il n'y en a plus à la sécher. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, oui, quand ils sont dans le malheur, quand ils sont dans l'affliction, ils vont retourner à l'Éternel, ils vont chercher sa face. Et à chaque fois, quand on lit les livres des juges, et puis dans certains autres passages, on voit qu'à chaque fois qu'ils étaient dans le malheur, ils se tournaient vers l'Éternel. Puis, à nouveau, quand ils étaient dans le bonheur, quand ils étaient dans l'abondance, quand leur situation était rétablie, qu'est-ce qui se passait? Ils se détournaient de l'Éternel. Leur piété, comme la rosée du matin, dès que le soleil est là, qu'il fait bon vivre, que tout va bien, il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de piété, il n'y a plus rien. C'est superficiel, c'est éphémère. Ne pensons pas que c'est l'apanage simplement du peuple d'Israël, mais c'est le cœur humain qui est comme cela. Nous entendons parfois des messages et voilà, on prend une bonne résolution, n'est-ce pas, hein? Ah, cette fois-ci, c'est bon. Hein? Je me consacre tout à fait au Seigneur, je vais chercher sa face et on le fait sincèrement. Puis, quelques jours après, si ce n'est quelques heures, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois, peut-être, il n'y a plus rien. Ainsi comme la femme d'Osée, nous retournons certaines choses. C'est une piété d'apparence éphémère. Aussi, il faudra plus que ça. Nous le trouvons à la fin de ce livre prophétique au chapitre 14 où Dieu lui-même va intervenir pour interpeller son peuple à la repentance. Il va y avoir, je ne vais pas lire tout ce livre du prophète Osée, mais des temps qui vont faire que ce peuple soit tout attaché à son Dieu. Ce que j'aimerais dire au travers de tout cela, nous savons que Jésus aime l'Église. Il aime l'Église. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Mosée a aimé sa femme, on pourrait dire. Marie, aimez vos femmes, mais ce n'est pas simplement comme Mosée a aimé sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et comment Christ a aimé l'Église? L'apôtre Paul nous le dit, il s'est livré lui-même pour elle. Il est monté sur la croix pour elle. Il a aimé l'Église ainsi. Mes frères, nous qui sommes mariés, la barre est très haute. Nous devons aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Amen. Tu ne m'appelleras plus mon Baal. Et mon mari, le peuple avait besoin de comprendre cela à ce moment-là. À qui ils étaient mariés, avec qui ils avaient fait alliance, et que l'Église puisse comprendre à qui elle est mariée, avec qui elle a fait une alliance. C'est l'alliance suprême. C'est une alliance d'amour qui a été scellée dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est ainsi qu'il a aimé l'Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quoi qu'il puisse arriver, le Seigneur aime l'Église. Quand bien même l'Église se détourne de son amour, comme Éphèse. Éphèse qui était un haut lieu de la chrétienté. Éphèse qui était un centre missionnaire extraordinaire. Il y a eu Jérusalem qui fut un centre missionnaire. Il y aura après Antioche et puis Éphèse. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un certain temps pour que le Seigneur lui dise « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Elle était capable de réfuter les faux docteurs. Oui, elle avait une connaissance théologique, oui. Mais elle avait perdu la connaissance de ce Dieu d'amour. Or, si nous aimons Dieu, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est que lui, il nous a aimé le premier, alors que nous n'étions pas encore du tout aimables, comme la femme de Gomère lorsqu'il a prise et qu'elle était encore prostituée. Il nous a aimés. Souvenons-nous de cet amour-là. Souvenons-nous de cet amour-là. Comme il a aimé ces églises du livre de l'Apocalypse, il a aimé la pire d'entre elles. Et à chaque fois, si le Seigneur lui fait des reproches, à chaque fois, moi je châtie celui que j'aime. C'est parce qu'il veut que cette Église puisse se ressaisir afin que son chandelier ne lui soit pas ôté. Oui, le Seigneur nous aime, alléluia. Comme nous dit un cantique, oui, le Seigneur nous aime. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, le Seigneur m'a tant aimé. Vous connaissez ce vieux cantique, hein? Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Alléluia. Quoi qu'il puisse nous arriver, frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu nous aime. Connaissons ce Dieu d'amour. C'est lui qui tient notre vie entre nos mains. Tous nos besoins sont pourvus en lui. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas besoin de courir le monde, de s'agiter dans tous les sens. Tout est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons grandir dans cet amour afin de ressembler de plus en plus au Seigneur, afin de pouvoir être tout près de son cœur, comme l'apôtre Jean qui posait sa tête sur le Seigneur Jésus, le disciple que Jésus est. Pierre va renier trois fois le Seigneur Jésus. C'est terrible, hein? Il va renier trois fois le Seigneur Jésus. Lui qui avait pu dire, mais à qui nous irions? Tu as les paroles de la vie éternelle et vous ne voulez pas partir?
On l'a chanté, hein.
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Ils ont été saisis par Jésus-Christ. Pierre, lui aussi, c'était un pêcheur, dans les deux sens du terme. Il pêchait le poisson, mais c'était aussi un pêcheur. Il pêchait. Pierre, ouais, il était sincère lorsqu'il avait dit, quand bien même, hein, tous t'abandonneraient, quand bien même, il faudrait mourir. Pierre était sincère, mais il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Est-ce que nous croyons un seul instant que Jésus a cessé de l'aimer? Non. Après la résurrection, le Seigneur va engager un dialogue avec Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Hein? À trois reprises, le Seigneur va lui demander s'il l'aime. Trois reprises. Pierre a bien compris où Jésus voulait en venir. Hein? Même si Pierre l'a renié, même si l'amour de Pierre a besoin encore de se développer, l'amour de Pierre pour le Seigneur a besoin de grandir, d'acquérir une maturité afin qu'il puisse dire non pas je t'aime bien, mais oui je t'aime avec un grand A. Avant même cela, le Seigneur l'aime. Il a aimé Pierre. Il a aimé Pierre. Il l'a même rétabli. Paix mes brebis. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour ton amour. Connaissons ce Dieu d'amour. Connaissons ce Dieu d'amour. N'oublions pas qui il est. Que Dieu soit béni.